Commencer cette conférence du Cercle Léon Trotsky. Donc, si les derniers veulent bien s'asseoir. Et j'en profite pour vous rappeler de bien penser à éteindre vos téléphones portables ou à les mettre en mode vibreur pour ne pas gêner pendant la conférence. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, cet après-midi, nous allons parler de la situation de la Grande-Bretagne. Alors, il y a 5 ans, le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord quittaient l'Union européenne. Et le 31 décembre de cette même année 2020, ils sortaient du marché unique et de l'union douanière. Ce Brexit, comme il a été appelé, fut le résultat tardif d'un référendum tenu le 23 juin 2016, référendum où le vote pour la sortie de l'UE l'avait emporté de justesse par 52% des suffrages exprimés. À l'époque, les nationalistes de tout poil crièrent victoire, certains ici y voyant le signe avant-coureur d'un futur Frexit. À l'inverse, d'autres politiciens pro-Union européenne prophétisèrent pour les peuples de Grande-Bretagne et d'Europe les pires catastrophes. Alors qu'en est-il vraiment ? 9 ans après le référendum, 5 ans après le Brexit, on va revenir dans cet exposé sur ses causes et sur ses conséquences. Pourquoi le Premier ministre conservateur David Cameron prit-il l'initiative de ce scrutin ? Comment expliquer la victoire des partisans de la sortie de l'Union européenne ? Quelles furent les conséquences économiques et politiques d'abord du référendum, puis du Brexit, en particulier pour les classes populaires ? Voici quelques-unes des questions que nous aborderons cet après-midi. On verra que le Brexit ne fut pas un choix du grand patronat, mais un ratage provoqué par la démagogie des politiciens censés le servir. De quoi nous rappeler que dans ce système capitaliste chaotique, la classe dirigeante ne dirige pas tout à la baguette, parfois même pas ses hommes d'État. Les troubles en Grande-Bretagne, en amont et en aval du Brexit, font écho à une crise plus large des vieilles démocraties bourgeoises, et pas seulement de la Ve République française. Comme on le voit en Allemagne ou au Canada, à mesure que la crise du capitalisme s'aggrave, l'usure des équipes politiciennes, même chevronnées, s'accélère. Les institutions, même les plus rodées, semblent de moins en moins capables de rendre les pays gouvernables. Examiner l'évolution récente de la Grande-Bretagne permet donc de réfléchir à cette situation et à ses évolutions possibles. Là-bas, le Parti travailliste est de retour au gouvernement après 14 années de gouvernement conservateur. Depuis le 4 juillet dernier, Keir Starmer a remplacé Rishi Sunak comme Premier ministre. Bien 7 mois plus tard, le remplacement de la droite par le centre-gauche n'a bien sûr rien changé pour les travailleurs. En Grande-Bretagne, l'alternance entre conservateurs et travaillistes fonctionne depuis un siècle au service du capital. Mais la crise sociale dont le pays n'est pas sorti depuis les années 1970 est en train de fragiliser cet équilibre. Cela se voit dans les urnes, avec le déclin des deux grands partis, et avec la progression, sur la droite des conservateurs, d'un parti xénophobe, réforme. Et cela se voit aussi dans la rue, avec en 2022-2023 un renouveau des grèves encourageant, mais aussi, l'été dernier, des émeutes xénophobes qui ont de quoi imprégner. Alors, où va la Grande-Bretagne ? Eh bien, pour développer tout ce sujet, je passe la parole à Thierry Hervé.
À la fin du XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne fut le premier pays du monde à s'engager dans la révolution industrielle. La bourgeoisie britannique, qui la conduisit, avait grandi au sein de la société féodale, profitant de la formation précoce d'un État centralisé et d'un marché national unifié. Dès le XVIIe siècle, un siècle et demi avant la Révolution française, les bourgeois anglais avaient mené une révolution où le roi avait perdu sa tête. Leur république ne dura qu'une décennie, mais la monarchie qui suivit préservait largement leurs intérêts. Le Parlement était désormais plus puissant que le monarque, réduit à un symbole, et bien que ce Parlement soit dominé par l'aristocratie, la bourgeoisie trouva les moyens d'y peser. Soutenue par l'État, la bourgeoisie continua dès lors à accroître ses richesses. Cela passa par une révolution agricole, basée sur l'éviction des paysans pauvres, et la concentration de la propriété des terres, et aussi par la traite négrière, source de profits immenses pour armateurs, assureurs et planteurs. Et cela passa, de plus en plus, par l'exploitation dans les mines et les fabriques d'une nouvelle classe sociale, le prolétariat industriel. À partir de 1800, les bouleversements dans le secteur textile se propagèrent à l'ensemble de l'économie et des fortunes sans précédent s'édifièrent sur le dos de la jeune classe ouvrière. En 1850, la société avait été profondément transformée. Un habitant sur deux vivait en ville et la Grande-Bretagne était devenue l'atelier du monde, inondant les marchés internationaux de ses produits manufacturés. La chambre basse du Parlement, les communes, élues au suffrage censitaire, étaient devenues le lieu où les différentes fractions des classes dominantes réglaient leurs différends. Le parti conservateur, surnommé Tory, y représenta longtemps les intérêts des propriétaires fonciers, des aristocrates embourgeoisés au sens où leurs revenus provenaient de terres qu'ils géraient comme des capitalistes. En face, le parti libéral, lié à la couche montante des industriels, y représenta jusqu'à la Première Guerre mondiale une aile plus réformatrice des classes riches. Dans le dernier quart du XIXe siècle, on passa d'un capitalisme de libre concurrence à un capitalisme des monopoles, où les sociétés par action faisaient la loi et où les banques n'occupaient plus seulement le rôle d'intermédiaire, mais celui d'investisseur à part entière, et où les grandes compagnies devenaient de plus en plus dépendantes de la béquille étatique. Dans les années 1880, si la bourgeoisie britannique était encore la plus riche du monde, la Grande-Bretagne n'était plus le seul pays industriel. Belgique, France, Allemagne, États-Unis, les concurrents étaient de plus en plus nombreux. Mais la précocité du développement du capitalisme en Grande-Bretagne permit à ces trusts de se tailler la part du lion quand, en quête de débouchés pour leurs marchandises et leurs capitaux, les grandes puissances européennes se lancèrent à la conquête du monde. Par le sang et par le feu, la Grande-Bretagne conquit un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, englobant presque un quart des terres et des habitants de la planète. Autour de 1900, son hégémonie s'appuyait sur un impérialisme informel également. La bourgeoisie britannique déversa ses produits et ses investissements sur bien des pays qui, indépendants sur le papier, devinrent en fait des semi-colonies. Les millions injectés depuis la City de Londres, dans les mines ou le rail au Chili, dans l'opium ou le thé en Asie, tout cela revint, moyennant l'exploitation du prolétariat colonial, dans la poche des capitalistes britanniques. Et c'est à cette époque que se développa par exemple la banque HSBC pour Hong Kong et Shanghai Banking Company, spécialisée, comme son nom l'indique, dans ses affaires lointaines. Alors en Grande-Bretagne même, la classe ouvrière, de plus en plus nombreuse, mena d'emblée des luttes collectives. Au premier temps de l'industrialisation, les artisans qu'elle ruinait s'organisèrent pour casser les machines. Puis les ouvriers formèrent des syndicats de métiers, appelés « trade unions » en anglais, pour défendre leurs conditions de travail. Certains, à la recherche d'une alternative au capitalisme, commencèrent à se dire socialistes. Entre 1838 et 1848, à travers une mobilisation de masse pour le suffrage universel, le chartisme, les travailleurs contestèrent même aux classes possédantes, pour la première fois, la direction de la société. Oui, malgré la répression, les classes populaires se révoltèrent, encore et encore. À partir de 1850, les ouvriers qualifiés parvinrent, au prix de luttes difficiles, à arracher des concessions à leurs exploiteurs, notamment la reconnaissance de leurs syndicats. En 1668, ces derniers se fédérèrent au sein du TUC, ce sont les initiales pour le Trades Union Congress, à savoir le Congrès des syndicats, une organisation dont nous reparlerons souvent. Mais le revers de la médaille, ce fut la domestication des dirigeants de ces appareils par le grand patronat, dont la fortune lui permettait de mettre de l'huile dans les rouages. Cette collaboration de classe se traduisit aussi sur le plan politique, par le suivisme des leaders syndicaux envers le Parti libéral. Alors ce choix fut cependant contesté en 1893 par le syndicaliste Keir Hardie. Déçu par les libéraux, il décida avec d'autres de fonder l'Independent Labour Party, c'est-à-dire un parti travailliste indépendant des partis établis. Alors par un chemin trop tortueux pour être détaillé ici, la bureaucratie syndicale parvint en 1906 à faire élire un nombre suffisamment important de ses représentants au Parlement pour que s'y forme un groupe travailliste autonome, en anglais le Labour Party. Mais, comme le résuma Lénine à l'époque, ce parti, qui ne se réclamait ni du socialisme ni de la révolution, était surtout indépendant de la classe ouvrière. Inféodé aux libéraux et respectueux des capitalistes, il s'illustra dès 1911 par son opposition farouche à la plus grande vague de grève que le pays ait jamais connue. En 1914, les rivalités entre grandes puissances impérialistes aboutirent à une guerre pour le partage du monde, car l'Allemagne, moins pourvue en colonies, contestait la domination de la Grande-Bretagne et de la France. L'économie britannique fut alors tournée entièrement vers l'effort de guerre. Et pour que rien ne vienne troubler la production, le Parti travailliste se vit pour la première fois confier des ministères. Dans bien des pays en guerre, dirigeants socialistes et syndicalistes furent intégrés à l'État de la même manière et pour les mêmes raisons. Ces quatre fauteuils récompensaient l'attitude du Labour au moment de l'entrée en guerre, lorsqu'il appela, avec le TUC, à une trêve sociale. Les chefs politiques et syndicaux du mouvement ouvrier se joignirent alors à l'armée, au patronat, à l'Église, pour inciter les prolétaires britanniques à aller massacrer ceux du pays d'en face. Presque 1 million de travailleurs y laissèrent leur peau, tandis que l'intégration des trade unions à la gestion de la boucherie permit à leurs effectifs de doubler, pour atteindre 8 millions en 1918. La Grande-Bretagne sortit victorieuse de cette hécatombe, gardant ses colonies, mais ce fut une gagnante affaiblie. Endettée auprès des États-Unis, l'État dut renoncer à la convertibilité en or de la livre sterling et l'économie ne redémarra que poussivement. L'impérialisme britannique n'était plus en mesure de dicter la marche du monde. Le vrai gagnant de la Première Guerre mondiale, ce furent les États-Unis, qui avaient attendu 1917 pour intervenir, laissant les puissances européennes s'épuiser dans leur face-à-face. En prêtant de l'argent à la Grande-Bretagne, l'impérialisme américain se mit en position de la subordonner, sans avoir encore les moyens de la supplanter. Ces deux puissances alliées étaient donc aussi des rivales, au point que Trotsky, au début des années 20, formula l'hypothèse que la guerre suivante les opposerait l'une à l'autre. Mais l'affrontement militaire entre le maître du monde déclinant et son dauphin n'eut pas lieu, car la bourgeoisie britannique se savait incapable d'endiguer la montée des États-Unis, et plutôt que de tout perdre dans un affrontement armé, elle se résigna à accepter une part amoindrie de la plus-value dégagée sur le dos du prolétariat mondial. Après la guerre, le paysage politique fut modifié. En face du Parti conservateur, le grand parti de la bourgeoisie, le Parti travailliste s'installa, grâce à l'octroi du suffrage universel en 1918, comme son principal concurrent électoral. Pour stopper la progression du Parti communiste de Grande-Bretagne, en voie de formation dans la foulée de la Révolution d'octobre en Russie, le Labour se donna pour la première fois un manifeste d'allure socialiste, dont la clause numéro 4 revendiquait la mise en commun des moyens de production et de distribution. Ce radicalisme de façade, destiné à créer des illusions dans l'électorat ouvrier, lui permit d'obtenir pour la première fois une majorité relative aux législatives de février 1924. Et le travailliste Ramsay MacDonald devint alors brièvement Premier ministre, avant d'être poussé à la démission par une campagne de calomnie. Confronté, dans les années 1920, à un tassement de ses profits, le patronat se rattrapa en pressurant la classe ouvrière. Les propriétaires de mines, en particulier, exigèrent de leurs ouvriers des journées plus longues pour un salaire amputé, provoquant, en mai 1926, la seule grève générale dans l'histoire de la Grande-Bretagne. Le syndicat des mineurs, ayant convaincu le TUC de les soutenir par un appel à la grève de tous les travailleurs, la classe ouvrière se saisit de l'occasion et se jeta dans la bataille. Et il ne s'agissait pas seulement de solidarité avec les mineurs. Partout, des comités d'action fleurirent, où les travailleurs de toutes catégories apportaient leurs initiatives pour remporter le bras de fer face au camp patronal. Mais au bout de 9 jours, alors que l'élan des travailleurs était loin d'être allé au bout de ses possibilités, le TUC appela à la reprise du travail, laissant les mineurs se battre seuls pendant des mois jusqu'à la défaite complète. Le jeune parti communiste, en voie de stalinisation, eut sa part dans ce fiasco. Sur les conseils de l'Internationale communiste, plutôt que d'encourager les travailleurs à s'organiser par eux-mêmes contre la bureaucratie syndicale, il fit l'inverse, en les appelant à donner tout le pouvoir, non pas à leur comité d'action, mais au Conseil général du TUC, c'est-à-dire au plus corrompu des bureaucrates. C'était une véritable trahison. Et oui, ce qui manqua alors à la classe ouvrière, ce fut une politique juste, mais pas l'énergie, ni l'imagination, ni le courage. En 1929, le travailliste MacDonald fut de nouveau nommé Premier ministre, toujours avec une majorité relative. Et il géra les contre-coups du crash de Wall Street en Grande-Bretagne avec zèle, c'est-à-dire qu'il présenta l'ardoise aux travailleurs, allant jusqu'à rompre avec son propre parti en 1931, quand il accepta de former un gouvernement d'union nationale avec conservateurs et libéraux. Une fois passé le pic de la crise, MacDonald céda la place au Tory Baldwin, l'homme qui, en 1926, avait orchestré l'écrasement des mineurs. Les années 1930 furent une période terrible pour la classe ouvrière, pendant laquelle les chantiers navals et la sidérurgie licencièrent en masse. Mais les ouvriers réduits au chômage ne restèrent pas l'arme au pied, se manifestant par de longues marches de la faim pour revendiquer des embauches. Et cette période vit aussi l'extrême droite chercher à tirer parti de la crise, en la personne de Sir Oswald Mosley, fondateur en 1932 d'une Union britannique des fascistes. Cet ancien ministre travailliste avait des soutiens dans l'establishment, car bourgeois et aristocrates étaient nombreux à admirer Mussolini et Hitler pour leur poigne de fer contre le mouvement ouvrier. Le 4 octobre 1936, Mosley tenta de faire défiler ses chemises noires à travers l'East End de Londres. L'East End, ces quartiers populaires, quartiers ouvriers où se mêlaient des travailleurs du monde entier, notamment des Irlandais et des Juifs. Bien que protégés par la police, les fascistes furent stoppés par 100 000 travailleurs et les chemises noires durent rebrousser chemin. Cette bataille de Cable Street, du nom de la rue où les fascistes furent bloqués, montrait que le meilleur rempart contre l'extrême droite, c'était la solidarité de classe des travailleurs. Mais la raison profonde pour laquelle Mosley ne fut pas porté au pouvoir, c'est que les travailleurs n'inspiraient pas à la bourgeoisie une crainte telle qu'elle se serait sentie obligée de remettre les clés du gouvernement aux fascistes. En fait, grâce aux surprofits tirés de l'exploitation coloniale, elle amortit les conflits sociaux en lâchant des miettes plutôt qu'en tirant dans le tas. Et l'État bourgeois, comme aux États-Unis au même moment, conserva sa façade démocratique. La Première Guerre mondiale n'ayant rien réglé, les impérialismes allemands et italiens, en alliance avec l'impérialisme japonais, repartirent bientôt à l'assaut. En 1939, encore une fois, la bourgeoisie appela le Labour à co-gérer la guerre impérialiste, en échange de ses efforts pour maintenir la paix sociale. Son dirigeant, Clement Attlee, fut nommé vice-premier ministre et seconda Churchill. Churchill, dont la haine envers le mouvement ouvrier et dont les vues sur la hiérarchie des races n'avaient vraiment rien à envier à celles des fascistes. Derrière les discours sur la défense des libertés, la bourgeoisie britannique ne faisait que défendre son empire, et elle le fit au prix du travail forcé dans les colonies et d'une famine dévastatrice au Bengale. En 1945, la bourgeoisie britannique sortit une fois de plus de la guerre dans le camp des vainqueurs, mais plus affaiblie encore. Les États-Unis avaient laissé les impérialismes européens s'épuiser mutuellement, n'entrant dans la bataille qu'en 1941, si bien qu'après-guerre, contrôlant les trois quarts des réserves d'or, Washington fut enfin en position de remplacer Londres comme gendarme du monde. Churchill qualifia la relation entre anciens et nouveaux maîtres du monde de « relation spéciale ». Cela sonne mieux que de parler de subordination. Et cela sonne mieux aussi que de parler d'une alliance entre gangsters, entre un pillard en chef et un second couteau. Mais c'est bien ce qu'ils étaient, et c'est bien ce qu'ils sont encore, des mafieux qui se partagent le pillage du monde. En 1945, les travaillistes conquirent pour la première fois une majorité absolue, sur la base de leurs promesses sociales. Mais la mise en place en 1948, du NHS, le système de santé, comme celle de la sécurité sociale en France, répondait d'abord aux besoins du patronat d'avoir des salariés en état de se faire exploiter. Et elle n'assurait qu'une protection très partielle. Quant aux nationalisations, elles ne visaient qu'à reconstruire au plus vite la grande machine du capitalisme. En politique extérieure, le départ des troupes britanniques d'Inde, puis de Palestine, se produisit d'abord parce que ces pays étaient devenus ingouvernables. Et la Grande-Bretagne laissa derrière elle des poudrières, terreau de tous les conflits ultérieurs. Non, malgré la légende dorée qu'on nous rabâche aujourd'hui encore, le bilan du premier solide gouvernement travailliste, il n'eut vraiment rien de glorieux. Dans les années 50 et 60, le déclin de l'impérialisme britannique fut accéléré par la perte de la plupart de ses colonies. On dit parfois que la décolonisation britannique fut moins sanglante que la française. Mais la Grande-Bretagne, dans sa répression des soulèvements anticoloniaux en Malaisie, à Aden, à Chypre, ne fut pas moins brutale que la France en Indochine et en Algérie. Au Kenya, ses troupes parquèrent les rebelles dans des camps de concentration où les tortures étaient quotidiennes. Jusqu'au bout, comme l'avait formulé un siècle auparavant Ernest Jones, un chartiste compagnon de Marx et d'Engels, l'Empire britannique fut un territoire sur lequel le sang ne séchait jamais. Mais ces interventions militaires représentaient un coût insupportable pour une économie déclinante, dont la croissance était désormais loin derrière celle de la France, de l'Allemagne ou de l'Italie. Et ce fut le rôle des gouvernements conservateurs que de négocier des indépendances qui préservent les intérêts des multinationales britanniques. Ils le firent notamment en invitant les pays nouvellement indépendants à rejoindre une organisation internationale basée à Londres, le Commonwealth, qui offrait un cadre pour préserver les liens construits sous l'Empire. En réalité, même les pays adhérents au Commonwealth passèrent alors dans la sphère d'influence du dollar, ce que Trump vient de rappeler à sa manière en revendiquant l'intégration du Canada aux États-Unis. Mais les gouvernements britanniques, ils n'avaient d'autre choix que de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Leur suivisme se confirma lorsque commença la guerre froide contre l'URSS. Sous couvert de l'OTAN, les États-Unis sollicitèrent les troupes britanniques lors de chacune de leurs guerres, à commencer par celle de Corée, de 1949 à 1952. Ce tandem criminel a fonctionné quelle que soit la couleur politique des occupants de la Maison-Blanche et de Downing Street, comme lors de la guerre du Vietnam et lors des invasions, plus tard, de l'Irak et de l'Afghanistan. Pour ces interventions, les troupes américaines ont pu, grâce à l'impérialisme britannique, bénéficier d'une base dans l'océan Indien, celle de Diego Garcia, une île appartenant à l'archipel des Chagos, qui fut vidée de ses habitants, manu militari, en 1966. Et même si la Grande-Bretagne a officiellement rétrocédé cet archipel l'an dernier, eh bien elle continue de prêter Diego Garcia à l'armée américaine. Dans ce monde qu'elle ne dominait plus, la bourgeoisie britannique fut contrainte de se tourner plus qu'avant vers le marché européen. Lorsque les impérialismes français et allemands se lancèrent, malgré leur rivalité, dans un début de construction européenne pour tenter de tenir tête ensemble aux géants américains et japonais, la Grande-Bretagne se tint toutefois à l'écart. Elle tenta même de mettre sur pied sa propre zone de libre-échange, mais avec des pays pesant trop peu, beaucoup trop peu, face aux six pays qui s'étaient alliés en 1957 au sein du traité de Rome. Finalement, estimant que la Grande-Bretagne aurait plus à gagner qu'à perdre en rejoignant la communauté économique européenne, ces hommes d'État la portèrent candidate. Et après deux vétos de De Gaulle, le Royaume-Uni entra dans la CEE le 1er janvier 1973, avec la bénédiction des trusts américains, qui voyaient dans cette adhésion un canal privilégié pour accéder au marché européen. l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE coïncida avec la fin du boom d'après-guerre. Au début des années 1970, le pays entra en crise, plus encore que d'autres pays impérialistes, du fait de son industrie vieillissante. Pour rétablir son taux de profit, la bourgeoisie se lança dans une offensive tous azimuts, comprenant licenciement, baisse des salaires réels et démantèlement des services publics, jugés désormais trop coûteux. La force de la classe ouvrière était telle, alors, qu'en 1974, une grève de mineurs contraignit le conservateur Heath à la démission. Pendant le restant de la décennie, il revint donc au Labour, comme après la crise de 1929, de présenter l'ardoise à la classe ouvrière. Sous prétexte de combattre l'inflation galopante, il tenta d'imposer le gel des salaires. Mais les travailleurs, combatifs et organisés, ne se laissèrent pas faire. À l'époque, près d'un travailleur sur deux était syndiqué, et le TUC comptait 13 millions d'adhérents. Jamais le pays ne connut autant de grèves que dans les années 1970. Et l'hiver 78-79 est passé à la postérité sous l'appellation d'hiver du mécontentement. Le pays fut alors secoué par des grèves sur les salaires, dans le public comme dans le privé, souvent spontanées, organisées par des délégués d'ateliers, sans l'aval de la bureaucratie syndicale, voire contre elle. Ainsi, dans les usines Ford, une grève de 9 semaines, menée par des dizaines de milliers d'ouvriers, arracha une augmentation de 18%, bien supérieure aux 5% que le gouvernement travailliste tentait d'imposer dans le public, en espérant que le privé suivrait. Oui, la force des travailleurs, c'était la grève. Et c'est précisément parce qu'ils étaient de plus en plus nombreux à mesurer cette force et à en user, que la bourgeoisie avait besoin d'une poigne plus ferme que celle des travaillistes. Mettre au pas les travailleurs, telle fut la mission de la conservatrice Margaret Thatcher lorsqu'elle devint première ministre en 1979. Alors, les plus jeunes dans cette salle n'ont peut-être jamais entendu parler de celle qui fut surnommée la Dame de Fer. Contrairement aux dirigeants habituels du Parti conservateur, elle n'était pas issue de la haute société, mais de la petite bourgeoisie. Son dévouement aux riches n'en fut pas moins total. Dès les années 1970, elle avait été surnommée la voleuse de lait. En tant que ministre de l'Éducation, elle avait décidé de supprimer le verre de lait gratuit dans les écoles. Alors, une fois première ministre, elle commença par asseoir son autorité avec 2 victoires. La première, en 1980, fut intérieure, contre une grève de sidérurgistes de 14 semaines. La seconde, en 1982, fut extérieure, contre l'Argentine, qui prétendait reprendre l'archipel des Malouines, des îlots de l'Atlantique Sud, sous pavillon britannique, où vivaient surtout des moutons. Pour garder la main sur ces îles et rappeler que les frontières tracées par les grandes puissances étaient intangibles, Thatcher livra une véritable guerre coloniale au prix de 900 morts, 600 jeunes Argentins, 300 jeunes Britanniques. Forte de ses succès personnels, Thatcher se retrouva confrontée en mars 1984 à 150 000 mineurs en grève contre la fermeture programmée de leurs puits. Son gouvernement avait quasiment provoqué l'épreuve de force, afin de donner une leçon à tous les travailleurs au nom de l'ensemble de la classe capitaliste. Il s'agissait d'infliger au bataillon le plus combatif de la classe ouvrière une défaite qui découragerait bien au-delà des mineurs, afin de dégager le terrain pour une offensive généralisée. Le bras de fer dura 1 an, jusqu'en mars 1985, et se solda par la défaite des mineurs. Mais celle-ci n'avait rien d'inéluctable. Les mineurs firent en effet preuve d'un sens de l'organisation, d'une détermination face à la répression policière, face aux calomnies médiatiques, qui forçaient le respect de tous. Oui, ils auraient pu être les fers de lance d'une riposte générale des exploités. leur piquet de grève volant, si efficace pour propager la grève de puits en puits, aurait pu, s'il s'était déployé aussi à la porte des entreprises, sur les places publiques, entraîner d'autres travailleurs dans la lutte, à la fois sur leurs revendications propres et sur des objectifs communs. Mais, comme en 1926, les dirigeants syndicaux menèrent le mouvement dans l'impasse. Le TUC laissa les mineurs se battre seuls, se contentant d'appels à la solidarité morale ou financière. Et le syndicat des mineurs mena une politique corporatiste où les grévistes finirent par s'épuiser. Et il avait en effet comme seule perspective le sauvetage du charbon britannique, alors que la bourgeoisie n'en voulait plus et qu'il aurait été possible peut-être de revendiquer plutôt des reconversions aux frais du grand patronat. Mais surtout, les dirigeants du syndicat ne cherchèrent pas à transformer le combat des mineurs en un combat de toute la classe ouvrière contre l'offensive patronale qui s'annonçait. Et il ne donna comme objectif aux mineurs en lutte que le blocage des rares puits où le travail continuait, ce qui aboutit à des face-à-face entre grévistes et non-grévistes aussi stériles que finalement démoralisants. Des trésors de combativité et de générosité furent gâchés par cette politique faussement radicale. Mais pendant des mois, les mineurs et leurs familles firent montre d'une combativité qui aurait pu renverser la vapeur. Ce ne sont pas les travailleurs qui ont été défaillants, ce sont les chefs syndicaux. Voilà la leçon qu'on peut en retenir. La défaite des mineurs marqua durablement les esprits, puisqu'elle semblait démontrer que même la résistance la plus énergique était vaine. Elle ouvrit donc les vannes pour des attaques en cascade. Les entreprises nationalisées furent privatisées les unes après les autres, entraînant à chaque fois des licenciements massifs. Les services les plus essentiels pour la population, dont la santé et l'éducation, virent leurs moyens humains et financiers réduits, en même temps qu'un nombre croissant de leurs missions était confié au privé. Thatcher se chargea aussi, en 1986, de décréter le Big Bang à la Bourse de Londres, dérégulant la circulation des capitaux pour aider la City à mieux tenir tête à Wall Street et à Tokyo. Dès 1987, un krach boursier faisait s'envoler des milliards en fumée. Mais cette mesure, le Big Bang, accéléra une financiarisation de l'économie britannique qui ne cesserait plus de s'accentuer. Et ce fut aussi sous Thatcher qu'on vit le Parti conservateur, jadis le plus pro-européen, entonner des diatribes de plus en plus véhémentes contre les diktats de Bruxelles. Cela relevait du calcul politicien, car il fallait bien un bouc émissaire pour la montée catastrophique des inégalités. Cela correspondait peut-être aussi aux hésitations des milieux d'affaires quant aux bénéfices d'une plus grande intégration à l'Europe. La Grande-Bretagne finit par signer le traité de Maastricht en 1992, mais sans aller jusqu'au bout dans la marche vers une monnaie commune, et en obtenant des autorités européennes qu'elles exonèrent le patronat britannique de certaines des clauses sociales du texte, par exemple la limitation de la semaine de travail à 48 heures. En 1997, le rejet des conservateurs ramena les travaillistes au gouvernement, en la personne de Tony Blair, et sous l'étiquette New Labour. Ce nouveau travaillisme était une opération de marketing destinée à séduire les électeurs de la petite bourgeoisie, car les milieux populaires, dégoûtés de la politique, votaient de moins en moins. Et c'était aussi destiné à rassurer les capitalistes. Tony Blair débarrassa le Labour de tous les attributs le rattachant de près ou de loin au mouvement ouvrier. Il réécrivit la fameuse clause numéro 4 pour effacer la référence à la notion de collectivisation et il réduisit le poids des appareils syndicaux à la direction du parti, au grand dam des bureaucrates. Une fois Premier ministre, Blair ne revint sur aucune des privatisations, ni sur aucune des lois antisociales des conservateurs. Et en 2003, sa décision d'envoyer l'armée envahir l'Irak aux côtés des soldats américains donna lieu à d'immenses manifestations anti-guerre, les plus grandes dans l'histoire du pays. Aussi détesté que Thatcher à la fin de ses mandatures, et ce n'est pas peu dire, Tony Blair céda la place, en 2008, à son ministre des Finances, Gordon Brown. Cette transition coïncida avec la crise des subprimes, à laquelle la Banque d'Angleterre répondit en renflouant les banques à hauteur de, excusez du peu, 500 milliards de livres, comme le firent alors Obama aux États-Unis et Sarkozy ici. Ces cadeaux évitèrent à la bourgeoisie un effondrement du système bancaire. Brown nationalisa alors aussi la banque Lloyds, qui fut bientôt rendue au privé une fois qu'elle était stabilisée. Mais les travaillistes n'évitèrent à la classe ouvrière ni l'explosion du chômage, ni celle des évictions. Le niveau de vie des travailleurs, déjà bien érodé depuis les années 1980, recula encore et brutalement. Pour couronner le tout, Gordon Brown reprit à son compte un slogan « Des emplois britanniques pour les travailleurs britanniques », slogan qui avait été celui du Front national britannique dans les années 1970. Jouer la carte du protectionnisme et d'une identité nationale fantasmée, cela deviendrait bientôt un must pour tous les partis, le hochet idéal pour faire diversion quand la crise s'aggrave et qu'on ne veut pas s'attaquer à ses vrais responsables, les capitalistes. Cette démagogie n'empêcha pas Brown de perdre l'élection de 2010 et les travaillistes furent renvoyés dans l'opposition pour longtemps. Quand le conservateur David Cameron devint Premier ministre en 2010, il jura qu'il allait réparer, je le cite, « une société brisée ». Mais au nom de la lutte contre la dette, que le renflouement des banques avait effectivement fait exploser, il mena une politique d'austérité brutale. Dans le secteur public, il supprima 500 000 postes en 5 ans, entraînant une dégradation des services offerts par les municipalités, les écoles, le système de santé, des secteurs déjà laminés au cours des décennies précédentes. Le prix à payer fut rude pour les travailleurs du public, mais pour le monde du travail plus généralement. Car en même temps, dans le privé, la course au profit du patronat se poursuivait, aggravant une précarisation des travailleurs déjà bien entamée. Cette dégradation se mesurait par exemple dans le nombre croissant de travailleurs contraints par millions de se déclarer auto-entrepreneurs. Se généralisèrent aussi les contrats dits « zéro heure », dont vous avez peut-être entendu parler, qui ne garantissent aucune heure de travail, donc aucun revenu, mais des contrats qui vous tiennent à disposition de l'employeur selon ses besoins. Et le glissement d'une fraction croissante de la classe ouvrière vers la pauvreté ne se voyait pas forcément dans le taux officiel du chômage, un taux qui est redescendu un peu après la crise de 2008 autour de 4%. Mais si on comptait tous ceux qui avaient renoncé à s'inscrire comme demandeurs d'emploi pour des raisons de santé ou par désespoir de trouver un emploi correct, eh bien les chiffres ils s'élevaient à 6 millions de personnes, c'est-à-dire en fait un actif sur 5. De plus en plus impopulaire, Cameron mit toutes ces détériorations sur le dos d'une part de l'UE, d'autre part des immigrés. Sa ministre de l'Intérieur, Theresa May, se fixa pour objectif de créer, je la cite, « un environnement hostile à l'immigration ». Cette démagogie anti-européenne et xénophobe porta bientôt ses fruits. À l'intérieur du Parti conservateur, le pôle dit eurosceptique, voire europhobe, prônant la sortie de l'UE et un contrôle strict des frontières, vit ses rangs grossir. À l'extérieur et sur la droite du Parti conservateur, des démagogues entonnèrent le même refrain de façon plus outrancière encore. Sur le terreau de la crise de 2008, l'extrême droite avait commencé à ressurgir. Le Front national, rebaptisé BNP, Parti national britannique, eut alors des dizaines d'élus locaux, et deux élus au Parlement européen de 2009. Parallèlement, apparue sur la droite du BNP, une organisation au racisme plus explicite encore, avide de ratonnades anti-pakistanaises, l'EDF, la Ligue de défense anglaise, dont le fondateur, Tommy Robinson, était passé par le BNP. Mais en 2014, ce n'est pas cette extrême droite fascisante, mais un ex-Tory, un ex-conservateur opposé au traité de Maastricht, le souverainiste Nigel Farage, qui fit événement. Son parti, à droite de la droite, UKIP, ça veut dire le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, arriva en tête des élections européennes en Grande-Bretagne avec 27% des voix. Pour endiguer à la fois la montée de UKIP et celle des frondeurs europhobes au sein de son parti, Cameron tenta un coup de poker en proposant un référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE, le fameux Brexit. Sûr que le Brexit serait minoritaire, il misait sur le fait qu'une défaite de ses opposants lui donnerait du répit. Mais Cameron, pompier pyromane, se retrouva dans la position de l'arroseur arrosé. Au petit jeu de la démagogie xénophobe, il tomba sur plus fort que lui. Et il avait sous-estimé le mécontentement de la population qui incita bien des électeurs à se saisir du référendum pour sanctionner celui qui posait la question et celui qui leur portait les coups. La campagne pour ou contre le Brexit fut un véritable festival de mensonges dans les deux camps politiciens. La campagne en faveur du maintien dans l'UE fut menée par un attelage unissant Cameron et la majorité des Tories au Parti travailliste. Ensemble, ils présentèrent l'appartenance à l'UE comme la panacée, alors que, à l'évidence, l'adhésion à l'UE n'avait mis la classe ouvrière à l'abri d'aucun mauvais coup. Quant à la campagne des pro-Brexit, menée par le conservateur Boris Johnson et par Farage pour UKIP, elle présenta la sortie de l'UE comme la baguette magique qui permettrait d'investir dans le système de santé les 350 milliards de livres ponctionnés chaque année par Bruxelles. Et les Brexiteurs jouèrent des pires préjugés xénophobes pour s'attirer des voix, expliquant que la sortie de l'UE permettrait de stopper l'immigration et donc de faire remonter le niveau de vie des Britanniques. Inutile de dire que dans ce référendum, il n'y avait aucun choix qui permette aux travailleurs de faire entendre leurs intérêts. Au terme d'une campagne nauséabonde, le 23 juin 2016, le Brexit donc l'emporta de justesse, par 52% des voix contre 48%, la participation n'avait été que de 72%. Le Brexit s'imposa donc par le choix de 37% seulement des inscrits. Des observateurs ont mis ce résultat sur le dos de l'électorat ouvrier, coupable, selon eux, d'être tombé dans le panneau des arguments racistes des Brexiteurs. Il est indéniable que le Brexit a réalisé de bons scores dans les villes et les régions frappées le plus durement par la crise. Mais il a aussi réalisé de très bons scores dans des zones plus aisées, grâce aux électeurs conservateurs les plus réactionnaires. Et lorsque des travailleurs ou des chômeurs ont voté Brexit, ce ne fut pas nécessairement par xénophobie, mais presque toujours par rejet de Cameron et des politiciens pro-UE, ces Tories et ces travaillistes qui, depuis les années 70, s'étaient succédés pour leur imposer des sacrifices. Avant même son entrée en vigueur, le 31 janvier 2020, le Brexit fut source de désordres multiples. Sur le plan économique, d'abord. Le Brexit n'était pas l'option préférée du grand patronat, qui avait plutôt profité de l'entrée dans le marché commun. Même si le personnel politique de la bourgeoisie avait estimé préférable de rester hors de la zone euro, les capitalistes voyaient plus d'inconvénients que d'avantages à une sortie de l'UE, une sortie de son marché unique et de son union douanière. Les incertitudes entourant toutes les implications du Brexit fragilisèrent donc un équilibre économique déjà précaire. Le lendemain du référendum, la livre sterling et la bourse de Londres chutèrent. Et bien des entreprises taillèrent dans leurs dépenses préventivement en licenciant, voire en fermant des bureaux ou des usines, comme Michelin en 2018 à Ballymena en Irlande du Nord, puis Michelin en 2020 à Dundee en Écosse. Dans les difficultés économiques des grandes entreprises britanniques ou implantées en Grande-Bretagne, il est évidemment impossible de démêler celles engendrées par la perspective du Brexit de celles engendrées par l'anarchie fondamentale du marché capitaliste. Mais le Brexit offrit un paravent commode à la soif de profit des actionnaires et leur permit de rafler des aides publiques à gogo sous prétexte d'adaptation au nouveau paysage. Un célèbre proverbe anglais dit que la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Eh bien, le Brexit a offert aux capitalistes une bonne opportunité, avec la complaisance des gouvernants, d'augmenter encore leur part du pudding. Après le référendum, puisqu'on ne pouvait pas l'annuler, la bourgeoisie chargea la successeuse de Cameron, Theresa May, de négocier avec Bruxelles un accord favorable à ses intérêts. Theresa May, quoique hostile personnellement au Brexit, accepta cette mission avec abnégation. Valait-il mieux un Brexit dur ou un Brexit mou ? Les conservateurs se déchirèrent sur le sujet et May s'usa à la tâche. Mais il revint finalement à son successeur en juillet 2019, Boris Johnson, de réaliser le Brexit. Le 31 janvier 2020. Johnson parvint à un accord de divorce limitant largement la casse pour les grands patrons, en leur épargnant, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, droits de douane et quotas. Mais, loin des miracles promis, le Brexit entrava la circulation des marchandises et des travailleurs. Il entraîna le départ de centaines de milliers d'Européens, car leurs conditions d'accueil avaient été durcies. Des pénuries de main-d'œuvre surgirent un peu partout, des hôpitaux aux chantiers, en passant par les champs et le transport routier. De plus, le Brexit alourdit les formalités administratives imposées à chaque entreprise commerçant avec l'UE. Elles s'en plaignent encore aujourd'hui, en particulier dans le secteur alimentaire. Remettant des murs là où ils avaient disparu, le Brexit causa donc des dysfonctionnements en série, dont une baisse des exportations vers l'Union européenne, qui ne fut pas compensée du côté du Commonwealth, contrairement à ce que les élucubrations de Boris Johnson avaient fait miroiter. Londres resta, malgré tout, la plus attractive des bourses européennes, devant Paris et Francfort, en partie parce que l'UE n'avait jamais été son seul centre de gravité et qu'elle continue d'être une tête de pont vers l'Europe pour les capitaux américains. Mais les milliardaires semblent considérer globalement que les péripéties autour du Brexit, sans les ruiner, loin de là, ont compliqué inutilement leurs affaires. Sur le plan politique, maintenant, le Brexit a multiplié les sources d'instabilité. Il a ravivé les tendances nationalistes, tant en Écosse qu'en Irlande du Nord, deux régions où le vote pro-Brexit avait été minoritaire. Les nationalistes écossais, qui militent pour la sécession de l'Écosse, d'une part, et les nationalistes du Sinn Féin, qui militent pour le rattachement de l'Irlande du Nord, aujourd'hui britannique, à la République d'Irlande, d'autre part, ils présentent désormais ces voix comme le seul moyen de revenir au sein de l'UE, et ainsi d'échapper, disent-ils, aux politiques antisociales dictées par Londres. En Irlande du Nord, ce sont toutefois surtout les supposés alliés des conservateurs, le courant dit « unioniste », qui ont rué dans les brancards, mécontents dans le texte du Brexit d'un protocole nord-irlandais qui introduisait une barrière douanière en mer d'Irlande, donc au sein même du Royaume-Uni. Même si l'éclatement du Royaume-Uni n'est pas pour demain, le Brexit a donc alimenter des foyers de tension dont la bourgeoisie se serait bien passée. Quant aux travailleurs, en quoi ont-ils été impactés par le Brexit ? Sur le plan économique, les grandes entreprises ont dès le départ répercuté leurs difficultés réelles ou anticipées sur les salariés. Les incertitudes nombreuses liées au Brexit n'ont fait que leur fournir un prétexte de plus pour durcir l'exploitation. Depuis quelques années, la pratique dite du « hire and fire » s'est généralisée. Elle consiste à licencier et réembaucher sur la base d'un contrat de travail moins avantageux. C'est ce qu'a fait, par exemple, la compagnie de transport maritime P&O en 2022, quand elle a licencié 800 travailleurs en CDI pour réembaucher aussitôt autant d'intérimaires. Bien des grandes sociétés ont eu recours aux mêmes méthodes. Par exemple, la compagnie aérienne British Airways, la chaîne de supermarchés Tesco. Autant dire que suite au Brexit, les miracles promis par Johnson et les Brexiteurs n'ont pas eu lieu. La croissance devait repasser au-dessus des 5%. Des investissements massifs devaient combler l'écart entre le nord et le sud du pays. Les milliards jadis vampirisés par l'UE devaient remettre à flot le système de santé. En réalité, l'économie a flirté avec la récession et la condition ouvrière a empiré. Moins, encore une fois, du fait du Brexit en tant que tel, que du fait du renforcement des attaques patronales. Pour corser le tout, au même moment, la gestion calamiteuse de la pandémie de Covid par Johnson a même fait de la Grande-Bretagne l'un des pays riches les plus durement touchés, avec plus de 200 000 morts. Mais c'est sans doute sur le plan politique que les dégâts du Brexit ont été les plus évidents du côté de la classe ouvrière. En effet, avant même sa mise en œuvre, avant même le référendum, on assista pendant la campagne autour du Brexit à une inflation de la propagande xénophobe telle qu'elle imprègne encore le climat politique aujourd'hui. Les discours anti-migrants, répétés mais jusqu'à la nausée, ont contribué à une banalisation des idées d'extrême droite, qui, en dressant des travailleurs contre d'autres, affaiblissent leur capacité à riposter au patronat, voire les préparent aux guerres de demain contre d'autres travailleurs. Une fois officialisée la sortie de l'UE, l'approfondissement de la crise globale du capitalisme a accéléré l'usure des conservateurs au pouvoir. Déjà bien décrédibilisés par le raté du Brexit, les dirigeants de ce parti qui, pendant deux siècles, avait fait office de parti naturel de la bourgeoisie, ils sont allés de déboire en déboire. Certes, pendant la pandémie de Covid, l'État a pris à sa charge le paiement à 80% des salaires de 10 millions de travailleurs confinés, pour un coût de 350 milliards de livres. Là, le patronat n'avait pas de quoi se plaindre. Les actionnaires de l'industrie pharmaceutique et une foule de prestataires ont alors su, eux aussi, profiter de la poule aux œufs d'or. Mais toutes ces aides creusèrent encore la dette, aujourd'hui égale au PIB annuel du pays. Et Johnson se contraignit lui-même à la démission en juillet 2022, suite à la publication de photos de lui en soirée festive, au moment même où il imposait distanciation et confinement à toute la population. Dans le genre clown dégénéré, cet enfant gâté de la bourgeoisie a certes de quoi rivaliser avec Trump, mais là, il faisait vraiment plus rire personne. Sa remplaçante, Liz Truss, se comporta, quant à elle, en véritable apprentie sorcière. Et elle ne tint que 49 jours, du 5 septembre au 24 octobre 2022. Son budget promettait aux riches des baisses d'impôts si astronomiques, sans rentrée équivalente en face, que les marchés financiers la sanctionnèrent en augmentant brutalement les taux d'intérêt proposés pour les emprunts d'État. La valeur des bons du Trésor menaçant de s'effondrer, Les banques exigèrent un rétropédalage qu'elles obtinrent. Liz Truss fut débarquée et le désastre ne fut évité qu'in extremis. Son remplaçant, le millionnaire et époux de milliardaire Rishi Sunak, ne se montra guère plus à la hauteur des attentes de ses maîtres. Incapable d'éponger la dette, de relancer la croissance ou de juguler l'inflation, il afficha en plus un mépris social digne d'un Macron, à un moment où des millions de travailleurs connaissaient le pire recul de leur niveau de vie depuis une génération. Et il se rendit immensément impopulaire. Le 13 juin 2024, le Financial Times, qui est l'équivalent britannique des Échos, dressait donc un bilan sévère du règne des Tories, évoquant 14 années perdues. Selon lui, dans un monde de plus en plus agité, les conservateurs avaient manqué de capitaines compétents. Ils n'avaient fait qu'ajouter du chaos au chaos. Bien sûr, les difficultés de la Grande-Bretagne ne sont pas imputables à la seule incompétence des figures de proue conservatrices. Ce désordre, il a pour cause fondamentale la crise profonde du capitalisme depuis les années 1970 et l'incapacité des bourgeois à surmonter les contradictions de leur propre système. Et puis, que la bourgeoisie classe irresponsable par excellence, quel est un personnel politique à son image, quoi d'étonnant à cela? Mais enfin, quand les capitalistes savent l'avenir incertain, ils veulent des serviteurs fiables. En 2024, il était clair que le Parti conservateur, lessivé par l'exercice du pouvoir, était mûr pour passer la main à son remplaçant attitré dans la gestion du capitalisme en crise, le Parti travailliste. Parmi les reproches de la bourgeoisie à Sunak, il y eut notamment son incapacité à éviter les conflits sociaux. Et oui, dans la Grande-Bretagne en crise, il y a eu au moins un signe encourageant ces dernières années, c'est le renouveau des grèves en 2022 et 2023. La vague la plus grande depuis les années 80. À ceux qui en doutaient, cette résurgence démontre que la classe ouvrière britannique n'est pas morte, qu'elle existe et qu'elle se bat encore. Et il est également encourageant pour nous de constater que les tentatives constantes du pouvoir pour faire diversion sur le terrain de la démagogie anti-migrants n'ont absolument pas empêché les travailleurs de revendiquer et de lutter. Ce retour de combativité, dont nous allons parler maintenant, il eut pour détonateur l'explosion des prix consécutive à l'invasion de l'Ukraine en février 2022. L'inflation, déjà élevée, passa à deux chiffres, en partie parce que le gouvernement refusa d'introduire un bouclier tarifaire contre la hausse des prix décidé par les géants de l'énergie. En quelques mois, on vit s'allonger les queues devant les banques alimentaires et la pauvreté, notamment infantile, repartit à la hausse. Cette crise du coût de la vie a donc été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour des travailleurs déjà éprouvés par l'accumulation des sacrifices depuis la crise de 2008. Entre août 2022 et avril 2023, il y eut chaque mois plus de 200 000 journées de grève perdues, comme disent les statistiques bourgeoises, avec un pic en décembre 2022 dû aux mobilisations dans le privé. De novembre 2022 à février 2024, il n'y eut pratiquement pas un mois avec moins de 200 grèves en cours, avec un pic en février-mars 2023, dû cette fois-ci aux mobilisations plutôt dans le public. Ce qui a poussé les appareils syndicaux a appelé de nouveau à des grèves en 2022, c'est tout simplement qu'ils risquaient de perdre tout crédit, et donc leur raison d'être aux yeux de l'État et du patronat, s'ils ne se faisaient pas un minimum les relais du mécontentement de leur base. À partir de juin 2022, malgré les innombrables obstacles juridiques introduits par les gouvernements conservateurs dans les années 80-90, les grèves se sont donc multipliées, avec pour revendication principale la hausse des salaires. Parti du rail, le mouvement a ensuite touché le courrier, puis les écoles et les universités, la fonction publique et les hôpitaux, ainsi que les bus, les ports, les entrepôts Amazon, et j'en passe. Malgré le matraquage anti-ouvrier du gouvernement et des médias, la vague s'est poursuivie en 2023 avec un vrai soutien dans l'opinion populaire. Lors d'un des temps forts du mouvement, le secrétaire du syndicat des cheminots, un certain Mick Lynch, déclara, je le cite, « la classe ouvrière est de retour ». La formule est alors allée droit au cœur de bien des travailleurs, revigorés par cette reprise des luttes. Celle-ci a cependant été contenue dans d'étroites limites, justement par Lynch et les chefs des appareils syndicaux. Certes, il y a eu 3 journées où plus d'un million de travailleurs en grève ont manifesté ensemble dans les grandes villes. Mais ces regroupements ont été l'exception. Pour le reste, les journées de grève ont été consciencieusement et méthodiquement fragmentées par les directions syndicales, de façon à éviter toute convergence. Quant aux piquets de grève, souvent très petits, conformément à la loi, les permanents syndicaux se sont gardés d'en faire des rendez-vous vivants entre travailleurs. Les grèves dépassant 2 jours ont été rares et aucune grève n'a été reconduite en dehors des dates fixées par les syndicats. C'est pourquoi le bilan de cette vague de grève a été finalement décevant. Faute d'une mobilisation rassemblant toutes les forces en vue d'une épreuve d'un bras de fer général, eh bien, les travailleurs n'ont arraché aucune concession significative. Pire, les syndicats ont fini les uns après les autres, à la poste, dans la santé, dans le rail, par signer des accords indignes, très loin des revendications initiales, et entérinant dans les faits le recul du pouvoir d'achat, quand ce n'était pas en plus des suppressions d'emplois hein, et même des nouveaux sacrifices sur les conditions de travail. Et l'approche des élections législatives de juillet 2024 a même offert un prétexte de plus aux bureaucraties syndicales pour ne pas pousser les luttes au bout de leurs possibilités. Même les syndicalistes qui s'étaient désaffiliés du Labour pendant les années Blair ont expliqué à leur base que finalement le retour des travaillistes au gouvernement permettrait d'obtenir les avancées qu'on n'avait pas pu obtenir dans la lutte. Cela n'a pas empêché des grèves de cheminots encore l'été dernier, mais pour l'instant, l'élan de 2022-2023 est retombé. Pour l'instant. Car face à l'approfondissement de la crise, les travailleurs, s'ils veulent sauver leur peau, n'auront d'autre choix que la lutte collective. Mais ce qui sera crucial au prochain rebond, ce sera la capacité des travailleurs à faire sauter les carcans que les directions syndicales ont réussi jusqu'à présent à leur imposer. Le sentiment que les grèves en pointillés, isolées les unes des autres, ne peuvent pas gagner, c'est un sentiment répandu. Et bien des travailleurs aspirent à un mouvement général où se retrouveraient tous les exploités. Mais ce n'est pas la perspective défendue par les bureaucraties syndicales. Elle s'abrite derrière l'illégalité des grèves de solidarité pour ne pas appeler à une riposte unie. Mais elles ont moins peur de la loi que de leur base et de grèves qui, en faisant tache d'huile, permettraient aux travailleurs d'éprouver leur force collective et d'échapper à leur tutelle. Alors, face à une bourgeoisie déterminée à faire payer la crise aux classes populaires, la seule issue reste un mouvement d'ensemble. Il ne pourra prendre corps que si les travailleurs prennent en main, à travers leurs assemblées générales et leurs comités de grève, leur propre mobilisation, pour qu'elles deviennent une explosion sociale massive. Le récent sursaut a de quoi encourager, mais pour que les prochaines luttes ne finissent pas dans une nouvelle impasse, il faudra des militants qui en tirent toutes les leçons et les partagent autour d'eux.
Nous allons faire une courte pause avant la suite de l'exposé et le débat qui suivra. Si vous sortez de la salle, prenez bien vos affaires avec vous. Merci de ne pas les laisser à votre place. Et donc, nous allons reprendre à 16h25. Voilà, à tout de suite.